à tous à une nouvelle émission de la radio du lycée Gabriel Fauré. Alors aujourd'hui on va parler de Frankenstein. Donc Frankenstein c'est un livre qui fut écrit par Mary Shelley alors qu'elle avait à peine 19 ans. C'est probablement aussi un des premiers, voire le premier roman de science-fiction. Parce que c'est quand même un des premiers romans ou récits qui met en scène un monstre et qui a pour but de faire peur avec un univers quand même captivant. Donc, pour faire entrer dans l'univers de Frankenstein, on va tout d'abord commencer avec une scène d'ouverture d'une pièce contemporaine, une adaptation contemporaine de Frankenstein. Apportez des bougies, on n'y voit rien. Comment voulez-vous qu'on écrive ? Un mot à chaque éclair ? Des bougies, là, là aussi. Créer une atmosphère propice. Il s'agit tout de même d'écrire un conte d'horreur. Installez-vous, installez votre peur, installez ma peur dans son fauteuil en chair de poule. Ça y est, il est là. Je le vois, je l'ai vu, j'ai vu son visage au fond du lac. Installez son visage, installez le lac. Il ne faut pas vivre près des lacs. Les lacs sont dangereux. Il y a des secrets au fond des eaux noires, avec les algues et les poissons. Je le sais. J'ai séjourné au bord d'un lac il y a longtemps, au printemps 1816. C'était dans le Léman. J'avais un amoureux. Percy, il s'appelait. J'avais 19 ans quand l'orage a éclaté à Genève ce soir-là.
Il ne faut pas naître près des lacs. Les lacs sont dangereux. Il y a des malheurs. Au fond des eaux blanches, avec les remords et les cailloux. Je le sais.
Installer des malheurs, installer des cailloux.
Je suis née au bord d'un lac, il y a longtemps, au printemps 1816. C'était dans le Léman. Je n'étais personne. Et puis quelqu'un m'a donné vie. Marie, elle s'appelait. Elle avait 19 ans quand l'orage a éclaté à Genève, ce soir-là.
Je suis Mary Shelley.
Je suis Victor Frankenstein.
On va maintenant continuer avec une lecture de la préface en anglais. Donc, voilà. Preface. The event on which this fiction is founded has been supposed by Dr. Darwin and some of the physiological writers of Germany as not of impossible occurrence. I shall not be supposed as according the remotest degree of serious faith to such an imagination. Yet, in assuming it as the basis of a work of fancy, I have not considered myself as merely weaving a series of supernatural terrors. The event on which the interest of the story depends is exempt from the disadvantages of a mere tale of specters or enchantment. It was recommended by the novelty of the situations which it develops, and, however impossible as a physical fact, affords a point of view to the imagination for the delineating of human passions more comprehensive and commanding than any which the ordinary relations of existing events can yield. I have thus endeavored to preserve the truth of the elementary principles of human nature, while I have not scrupled to innovate upon their combinations. The Iliad, the tragic poetry of Greece, Shakespeare and the Tempest and Midsummer Night's Dreams, and most especially Milton and Paradise Lost conform to this rule, and the most humble novelist, who seeks to confer or receive amusement from his labors, may, without presumption, apply to prose fiction a license, or rather a rule, from the adoption of which so many exquisite combinations of human feeling have resulted in the highest specimens of poetry. The circumstance on which my story rests was suggested in casual conversation, and was commenced partly as a source of amusement, and partly as an expedient for exercising any untried resources of mind. Other motives were mingled with these as the work proceeded. I am by no means indifferent to the manner in which whatever moral tendencies exist in sentiments or characters it contains shall affect the reader. Yet my chief concern in this respect has been limited to the avoiding the enervating effects of the novel of the present day and to the exhibition of the amiableness of domestic affection and the excellence of universal virtue. The opinions which naturally spring from the character and situation of the hero are by no means to be conceived as existing always in my own conviction, nor is any inference justly to be drawn from the following pages as prejudicing any philosophical doctrine of whatever kind. It is a subject also of additional interest to the author that the story was begun in the majestic region where the scene is principally laid, and in society which cannot cease to be regretted. I passed the summer of 1816 in the environs of Geneva. The season was cold and rainy, and in the evenings we crowded around a blazing wood fire and occasionally amused ourselves with some German stories of ghosts, which happened to fall into our hands. These tales exited in us a playful desire of imitation. Two other friends, a tale from the pen of one of whom will be far more acceptable to the public than anything I could ever hope to produce, and myself agreed to write each a story, founded on some supernatural occurrence. The weather, however, suddenly became serene, and my two friends left me on a journey among the Alps, and lost in the magnificent scenes which they present, all memory of their ghostly visions. The following tale is the only one which has been completed. Marlowe, September 1817.
J'espère que le théâtre et la préface en anglais vous ont plu et que ça vous a aidé à rentrer un peu dans l'œuvre de Frankenstein, qui est une œuvre donc à la base romantique, mais qui est écrite d'une manière gothique. Et qui est donc l'embryon, comme on le disait au début, de la science-fiction. Aussi, donc le titre original, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et Mary Shelley met l'accent sur une vieille légende, donc la légende de Prométhée, qui aurait donné la vie aux hommes à partir de terre, et qui aurait aussi donné le feu aux hommes, qui aurait donc été puni par Zeus, et la légende dit qu'il aurait été tué tous les jours et qu'il renaîtrait chaque jour aussi pour avoir une souffrance éternelle. De plus, Prométhée signifie celui qui réfléchit avant, ce qui se prouve d'être plutôt ironique parce que c'est une qualité qui manque à Victor Frankenstein. Parce qu'il crée une créature et sans réfléchir aux conséquences. Il n'imagine pas que si son projet marche, son projet aboutit d'ailleurs, il aboutit, il crée un monstre, il se pose pas des questions sur les conséquences de son œuvre et sur le potentiel de destruction que son monstre ou sa bête pourrait faire. Donc c'est une comparaison entre Prométhée et Frankenstein qui selon les angles, qui apporte un contraste d'ironie et de comparaison. Par ailleurs, on peut voir que Frankenstein a quand même traversé les époques, parce que ça fait quand même 200 ans qu'il a été publié, et qu'il est quand même encore repris dans des livres, dans des films, dans des bandes dessinées, dans des dessins animés, dans des jeux vidéo, dans plein de différentes façons, sous différents thèmes. Et d'ailleurs, il a été repris dans plusieurs chansons. Il y a eu une chanson de Serge Gainsbourg, dont le titre Frankenstein, et qui a été interprétée par France Gall en 1972, avec les paroles connues. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein, pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant, un mort vivant. J'espère que cette émission vous aura plu, et à la prochaine. Ciao !